Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, nous sommes le samedi 2 avril 2022. Christophe Mallet pour vous présenter cette émission en direct de Melbourne, émission en français donc sur Radio SBS. Au programme, nous parlerons du journal, nous aurons le sport également, nous parlerons du tirage de la Coupe du Monde qui s'est déroulée à Doha au Qatar, c'est du football. Nous partirons également pour l'année 1982, le début de la guerre des Malouines, et nous parlerons à Fred Cavaillé, le réalisateur d'un des films phares du festival français de l'Alliance française. Adieu Monsieur Hoffman. Mais pour l'heure, il est temps de passer au journal. Et dans les grands titres de l'actualité pour aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, les autorités russes affirment que l'armée ukrainienne a frappé en dehors de ses frontières en détruisant un dépôt de pétrole en Russie. Et l'Australie qui vient de signer un accord de libre-échange historique avec l'Inde après des années de négociations, alors même que l'Inde renforce ses liens avec la Russie. Je viens de vous le dire en titre, un dépôt de carburant en Russie continue de brûler après un raid aérien transfrontalier par des hélicoptères apparemment ukrainiens. Le gouverneur de la ville frontalière russe de Belgogor a déclaré que deux hélicoptères de combat ukrainiens avaient attaqué le dépôt qui servait de plaque tournante logistique pour les troupes russes combattant dans l'est de l'Ukraine. Les images des caméras de sécurité vues par les agences de presse internationales montrent un éclair de lumière provenant de ce qui semble être un missile tiré à basse altitude dans le ciel, suivi d'une explosion au sol. Un porte-parole du ministère ukrainien de la Défense n'a ni confirmé ni démenti l'attaque. On l'écoute.
Ukraine is carrying out a defensive operation countering Russian armed aggression in the Ukrainian territory. It doesn't mean that Ukraine should bear responsibility for every blunder and for every disaster and every event that happens on Russia's territory. It's not the first time we see these statements. I will not confirm nor deny this information.
Donc le porte-parole du ministre ukrainien de la Défense. L'attaque ukrainienne sur le sol russe, si elle est confirmée, elle serait la première du genre depuis le début de la guerre, c'était fin février. S'adressant aux journalistes aux Nations Unies, l'ambassadeur adjoint de Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polyansky, a déclaré que l'attaque sape tout simplement les pourparlers de paix. On l'écoute.
The attacks on the Russian territory, they just reflect the real intention of the Ukrainian side and the real intention for any peace talks and gestures that could lead to certain openings.
C'était l'ambassadeur adjoint donc de la Russie auprès de l'ONU, Dmitri Polyansky. Sur le terrain, la ville de Mariupol n'est toujours pas évacuée malgré les promesses russes. Les corridors d'évacuation n'ont toujours pas été mis en place. Écoutez, la députée ukrainienne Lisa Vasilenko, elle était de passage en France, elle dénonce les atrocités dans sa ville.
Plus de 90% des bâtiments à Mariupol sont abîmés ou ils sont détruits à un niveau qu'ils sont inhabitables. Les gens, ils passent leur jour et leur nuit au sous-sol parce que c'est la seule place à peu près sécurisée parce que les Russes, ils frappent Mariupol tout le temps. Les atrocités de guerre autour de Mariupol, ils sont terribles. On a des cas de viol, on a des cas où les enfants sont tirés dessus. On a des mamans qui ont perdu des jambes et des mains parce qu'ils étaient en train de sauver leurs enfants par les couvrant avec leur propre corps, parce qu'ils étaient tirés dessus par des soldats. Quand ils sortaient des civils, ils en étaient tirés sur le dos. C'est des barbaries, c'est plus que des barbaries. C'est monstrueux ce que l'armée russe fait. Et l'armée russe, c'est pas Poutine. C'est aussi des hommes avec des armes qui tirent sur les femmes et sur les enfants.
Et c'était donc les propos de Lisa Vasilenko. C'est une des députées ukrainiennes. Elle était de passage en France, donc. Et dans ce climat, Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, était en Inde ces dernières heures. L'Inde est l'un des rares pays, ou l'un des rares grands pays, qui n'a pas encore condamné l'attaque des forces russes envers l'Ukraine. Sergueï Lavrov a rencontré le premier ministre indien pour des discussions commerciales, ce qui met en lumière de très forte ou la très forte dépendance de l'Inde aux ressources minières et gazières de la Russie. Sébastien Farcy.
Le mécanisme de paiement en négociation permettrait à l'Inde de payer en roupies pour ses achats et à la Russie de payer en roubles pour les siens. Cela permettrait de dégeler les transactions bancaires entre les deux pays, un blocage arrivé après l'exclusion des banques russes du système bancaire international SWIFT. New Delhi est particulièrement inquiet aujourd'hui car 86% de l'équipement militaire indien est d'origine russe et dans la situation actuelle, il est quasiment impossible d'acheter du matériel ou des pièces de rechange. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a ainsi félicité l'Inde de ne pas avoir succombé aux pressions occidentales et de rester neutre dans ce conflit.
Nous apprécions le fait que l'Inde prenne tous les faits en considération et pas de manière biaisée. Nous sommes, comme vous, en faveur d'un monde multipolaire.
La Russie aurait également proposé à l'Inde d'acheter du pétrole à prix cassé, ce qui l'intéresse bien sûr. New Delhi importe 80% de son essence et les prix à la pompe ont explosé. Des diplomates américains et européens à New Delhi ces dernières heures ont toutefois essayé de dissuader l'Inde d'accroître de telles importations, car cela pourrait réduire l'effet des sanctions contre Moscou.
Et c'était un reportage de Sébastien Farcy pour RFI. Alors dans ce climat, eh bien l'Australie et l'Inde vont signer aujourd'hui un accord commercial historique après plus d'une décennie de négociations. Dans le cadre de ce nouvel accord, les droits de douane seront supprimés sur plus de 85% des marchandises australiennes exportées vers l'Inde. Cela représente tout de même une valeur de plus de 12 milliards de dollars par an. Et de l'autre côté, 96% des marchandises indiennes pourraient entrer en Australie ou pourront entrer en Australie sans droits de douane. Les produits australiens comme la viande de mouton, la laine, les avocats, les oignons, les noix ou encore les fruits sont inclus dans cet accord. Et l'Inde n'est pas d'accord sur l'exportation ou l'importation de bœuf et de produits laitiers pour des raisons culturelles. Le ministre du Commerce, Dan Tehan, a déclaré sur Channel 9 que l'accord représentera un total de 45 milliards de dollars d'exportation d'ici à 2035 vers l'économie la plus grande et la plus dynamique du monde. On l'écoute.
It will help in a big way. So, for instance, for our wine industry, we get preferential access into the Indian wine market that no other country enjoys. For our wool exporters, they get the tariff eliminated immediately, and India is one of our largest export destinations for our wool. Sheep meat, our coal, 0% tariff for coal. All those critical minerals and rare earths.
C'était Dan Tehan, le ministre du Commerce australien. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris se poursuit. Et pour la première fois, des images et des enregistrements sonores ont été diffusés lors de l'audience. Des images choc prises quelques minutes après les attaques. Une journée éprouvante, comme nous l'explique Marine de la Moissonnière.
Des corps presque partout, des corps les uns sur les autres et des traînées de sang, tellement de sang que les semelles des baskets d'un homme sont rouges. Même si on ne peut identifier personne, les images de la fosse où sont mortes la plupart des 90 victimes du Bataclan sont terribles, glaçantes. Dans la salle, un silence de plomb, quelques exclamations étouffées sur les bancs des parties civiles. Certains accusés détournent le regard, fixent le sol. L'un d'entre eux garde les yeux fermés et se bouche les oreilles. Juste avant la cour a écouté trois extraits de la bande-son de cette nuit d'horreur. Tout d'abord, l'arrivée des terroristes. On entend la musique du concert, puis des tirs en rafale et par à-coups, et des cris de peur et de douleur. Les deux minutes d'enregistrement semblent durer une éternité. Le deuxième passage, lui, est très bref. On entend vaguement un otage hurler aux policiers de ne pas rentrer, sinon les terroristes vont tout faire sauter. Le dernier extrait, c'est l'assaut final. On court, on court, on court. Allez, 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 crient des policiers aux otages qu'ils viennent viennent de libérer. Le président annonce une suspension d'audience. Certaines parties civiles quittent la salle en pleurs.
C'était Marine de la Moissonnière pour RFI. Au Yémen, une trêve dans la guerre donc, dans le pays, avec toutes les parties belligérantes qui ont convenu d'une trêve de 2 mois pour la première fois depuis 2006. Une trêve qui coïncidera avec le mois sacré musulman du Ramadan. Le conflit qui dure depuis 7 ans entre la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite et le groupe Houthi. Ce groupe Houthi est aligné sur l'Iran, a tué des dizaines de milliers de personnes et entraîné l'effondrement virtuel de l'économie tout simplement du Yémen. L'accord négocié par l'ONU stipule l'arrêt des opérations militaires offensives, y compris les attaques transfrontalières. On autorisera par contre les importations de carburant dans la zone tenue par les Houthis et certains vols de passagers à partir de l'aéroport de la capitale de Sanaa. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré que la trêve doit être la première étape pour mettre fin à la guerre qui est si dévastatrice dans la région.
War has devastated the lives of millions of Yemeni women, children and men. It is difficult to imagine the extent of their suffering, which has mainly taken place far from the media spotlight. The war has fueled one of the world's worst humanitarian crises, brought state institutions to the verge of collapse, reversed human development by 2 decades, and threatened regional peace and security. Today must be the start of a better future for the people of Yemen.
C'était les propos du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Les dirigeants des Premières Nations du Canada ont exprimé leur gratitude au pape François pour ses excuses pour l'injustice qu'ils ont subie de la part du système d'éducation catholique donc dans le pays au Canada. Des dizaines de membres des communautés métis, inuits et des Premières Nations du Canada se sont rendus à Rome pour entendre le discours du pape qui a déclaré qu'il prévoyait de se rendre lui-même au Canada en juillet pour présenter ses excuses officiellement aux personnes et aux autres survivants. Je vous rappelle que plus de 150 000 enfants autochtones canadiens ont été forcés de fréquenter des écoles chrétiennes financées par l'État au 19e siècle, jusqu'à en fait la fin des années 1970, dans le but de les isoler de l'influence de leur foyer et ainsi de leur culture. Le président de l'Inuit Taparikit Kananami déclare que les excuses papales sont une étape sur la voie de la justice et de la réconciliation. On l'écoute.
Behind the lies, behind the lack of justice, this Pope, Pope Francis, decided to go right through it and decided to speak words that First Nations, Inuit and Métis have been longing to hear for decades.
13h12, coup d'œil météo pour l'Australie à travers cet après-midi. Perth, il fera 30 degrés, Adélaïde 23, Melbourne 19 et de la pluie. À Melbourne, je le vois par la fenêtre. À Hobart, il fait 17. À Canberra, il fera 17 également. 22 degrés et quelques averses à Sydney. Et il fera 28 degrés à Brisbane. Cairns, 31 degrés. Et comme toujours, la palme de la température revient à Darwin avec 34 degrés. Un rappel des grands titres de l'actualité. Donc pour aujourd'hui, en ce 2 avril 2022, la guerre en Ukraine pour la première fois. Depuis le début de ce conflit, les autorités russes affirment que l'armée ukrainienne a frappé hors de ses frontières en détruisant un dépôt de pétrole en Russie. Et on l'a vu également dans ce journal, l'Australie qui vient de signer un accord de libre-échange historique avec l'Inde. C'était après des années de négociations, alors même que l'Inde renforce ses liens pour le moment avec la Russie. Voilà, c'est tout pour ce journal pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve pour le sport dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports, un journal des sports aujourd'hui intégralement composé de football puisque nous connaissons maintenant la composition des groupes pour la Coupe du Monde du Qatar de cette fin d'année. Coupe du Monde d'ailleurs que vous pourrez suivre à l'antenne de SBS Télévision et SBS Radio, le tout bien entendu gratuitement et dans son intégralité. Alors dans les équipes francophones, le Sénégal est présent dans le groupe A avec le Qatar, l'Équateur et les Pays-Bas. La France se retrouve dans le groupe D avec le Danemark, la Tunisie mais également le vainqueur du barrage entre l'Australie, les Émirats arabes unis ou le Pérou. On y revient dans quelques instants pour l'Australie. La Belgique est dans le groupe F avec le Canada, la Croatie et le Maroc. Et le Cameroun se retrouve dans le groupe G avec le Brésil, la Serbie et la Suisse. L'Australie, d'ailleurs, justement, n'est pas encore qualifiée. Mais Graham Arnold, le sélectionneur australien, était présent au Qatar en tant que président de la FFA, la Fédération de football australienne. On écoute Graham Arnold.
I don't know if it's been a tough few months. I think it's been a tough few years. And, you know, we're in a playoff position and I'm actually quite grateful we're in that playoff position because we, you know, we had a lot of challenges through the pandemic and, you know, we played 4 games out of 18 at home. The rest were away from home and, you know, we lost a lot of players during that international travel, during the pandemic that... you know, restricted our numbers of players. So it is what it is. Now we just move on. For me, the draw is very similar to what we had in 2018. We had France, we had Denmark, and the only difference is Tunisia. And it'll be a great experience playing against an African nation. And no doubt they're a very good side. But for us at the moment, we're just focusing first on the playoffs.
Graham Arnold, donc le sélectionneur australien. Et à quelques mois du coup d'envoi de la Coupe du Monde donc au Qatar, Gianni Infantino, le président de la FIFA, est revenu sur la place de la Russie dans cette Coupe du Monde.
The decision on Russia has been taken around a month ago, I think. The Russian Football Union has appealed that decision at the CAS, so we are waiting, of course, to the result of the CAS deliberations in this respect, and then we will see what comes next. As I said, I sincerely hope that the conflict can end and we can again and we will be there the first day to play football again.
Gianni Infantino, une Coupe du Monde qui fait quand même tourner des têtes et qui ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Écoutez, le capitaine anglais Harry Kane, il n'est absolument pas satisfait d'aller jouer au Qatar pour cette Coupe du Monde.
I think the important thing is that it's going to be in Qatar and it's shining a light on that country and hopefully that will definitely help make change and yeah, that's as a player and as a nation, we can only try and move that forward in the right direction.
Harry Kane, le capitaine anglais. Et pour conclure cette page football, eh bien, le président de la Fédération algérienne a démissionné ces dernières heures après le fiasco de son équipe et la non-qualification donc de l'Algérie. Je vous rappelle que l'Algérie a perdu dans les toutes dernières minutes de son match de qualification, son match de barrage contre le Cameroun. L'Algérie donc à la grande surprise de tout le monde qui ne sera pas à cette Coupe du Monde et ça coûtera la tête de Sharaf Edine Amara, le président donc de l'Association de football algérien.
Je fais tout ce qui est possible et je dirais illégal. Si vous me demandez d'acheter un arbitre, je vous le dis, je n'achète pas les arbitres. Si vous voulez vous me couper la tête pour ça, faites-le. Mais je ne me demandais pas d'acheter un arbitre. Et je ne fais pas ça, je ne ferai pas ça. Même si mon équipe nationale s'élimine, un goulha, je l'assume.
Voilà donc Sharaf Edine Amara, le président, ou l'ancien président maintenant de l'Association de football algérien. Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause en musique et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Sur ma bouche, les arguments et les baisers.
Simplicité de cette chanson nous donne des frissons, et ça c'est sûr et certain. Eddie De Pretto et Julien Doré, Larme Fatale, on est le 2 avril et c'est déjà ma chanson préférée pour le mois d'avril dans notre sélection musicale. Il est 13h22, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, on va faire une courte pause et on part pour notre rétrospective. Comme chaque samedi, nous partons pour l'année 1982 et la guerre des Malouines, tout de suite après ça. Notre rétro sonore, comme chaque samedi, nous sommes le 2 avril, direction de l'année 1982. L'armée argentine lançait une offensive sur l'archipel des Malouines pour reprendre le contrôle de ces territoires de l'Atlantique Sud, alors sous le contrôle britannique. Le conflit a duré 2 mois et demi. Il s'est soldé par un fiasco militaire pour les Argentins. le début de la guerre des Malouines, le 2 avril 1982. C'est notre rétro sonore avec des extraits d'un reportage d'Euronews et des archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel.
2 avril 1982, 900 soldats argentins débarquent à Port Stanley, Puerto Argentino en espagnol, la capitale des îles Malouines, et ils expulsent les autorités britanniques de l'archipel.
Les Malouines, c'est un petit archipel au large de l'Argentine, qui jusqu'alors avait appartenu à presque tout le monde, sauf à l'Argentine précisément. Les Français y furent même pendant 2 ans, Bougainville était parti de Saint-Malo, de là l'origine du nom des Malouines. Depuis, c'était les Anglais. Ils n'étaient pas bien nombreux, mais ils se considéraient chez eux. Eh bien, depuis ce matin, tout a basculé. L'Argentine a envahi l'archipel et toutes les capitales occidentales sont en émoi.
À Buenos Aires, c'est une foule en liesse qui salue Plaza del Mayo, le général Leopoldo Galtieri, alors président et chef de la dictature militaire, qui depuis 1976 tient le pays d'une main de fer. Miné par la crise économique, les divisions internes, discrédité par la répression sanglante, la dictature tente de se refaire une santé en récupérant l'archipel.
Michel Strolovici.
L'archipel des Malouines vu d'avion. 200 îlots comme celui-ci pour une population de 2000 habitants et en tout et pour tout 80 soldats britanniques au large des côtes d'Argentine. Les commandos de la marine de Buenos Aires ont donc récupéré sans coup férir ces territoires que la Grande-Bretagne avait annexés en 1833. La quasi-totalité des navires de guerre argentins a participé à l'opération, avec comme objectif principal la capitale de l'archipel, Port Stanley. L'archipel a une importance stratégique certaine, verrou en quelque sorte des voies maritimes de l'hémisphère sud, mais ce sont ses ressources pétrolières qui expliquent pour l'essentiel la récupération. Le cabinet britannique s'est réuni ce matin d'urgence pour étudier la réponse à l'action argentine et Londres a rompu ses relations diplomatiques avec Buenos Aires.
S'en suivent 74 jours de guerre sanglante. Elle fera 255 morts côté britannique, 650 côté argentin.
La crise des Malouines, le secrétaire d'État américain à Londres pour tenter ses bons offices. La livre britannique, victime directe jusqu'ici de la crise des Malouines, freine sa chute au moment où les chances d'une négociation semblent s'accroître. Le secrétaire d'État américain Alexander Haig vient d'arriver à Londres. Nous l'accueillons comme un ami et un allié, non pas comme un médiateur, a déclaré le Premier ministre britannique. Pour accroître la pression avant l'ouverture d'éventuelles négociations, le ministre de la Défense britannique a déclaré qu'à partir de lundi prochain, la flotte coulera tous les vaisseaux argentins pénétrant dans une zone de 370 km autour des îles Malouines. La position britannique est claire, pas de négociation avant le retrait des troupes argentines.
Le 14 juin, l'armée britannique remporte la victoire. L'Union Jack flotte à nouveau sur les Malouines. Pour Margaret Thatcher, alors Premier ministre, cette guerre, c'est aussi une victoire politique, car elle retrouve une popularité en berne. En Argentine, la défaite marque la fin de la dictature militaire et le retour de la démocratie avec l'élection de Raoul Alfonsín en 1983. Lorsqu'en 1990, les deux pays rétablissent des relations diplomatiques, ils passent des accords de coopération sur la pêche et la recherche d'hydrocarbures dans l'océan Austral. Mais le litige sur la souveraineté des Malouines refait surface lorsque le Royaume-Uni commence à concéder des licences de pêche et surtout qu'en 2011, il y autorise la prospection d'hydrocarbures. L'Argentine a riposté en bloquant l'accès aux ports des pays sud-américains aux navires battant pavillon des Malouines et aux navires de guerre britanniques. Récemment, Londres a décidé d'envoyer son destroyer hypermoderne, le HMS Dunster, au large de cet archipel austral très disputé.
Salomé Leclerc avec Partir ensemble, une chanson très puissante. Imagine ces mots si on partait ensemble. Salomé Leclerc, il est 13h30, courte pause et on va parler de cinéma tout de suite après. J'ai eu la chance de parler à Fred Cavaillé, c'est le réalisateur du film Adieu Monsieur Hoffman. C'est l'un des films phares du Festival du film français de l'Alliance française et une interview plutôt sympa avec Fred Cavaillé tout de suite après ça.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
On est aujourd'hui dans le programme en français sur Radio SBS avec Fred Cavaillé. Bonjour déjà, premièrement. Votre film, c'est un des films stars du festival cette année, Adieu Monsieur Hoffman. Nous, on a eu la chance de le voir en média preview. C'est vraiment un sujet difficile, compliqué, mais qui va plus loin que juste le sujet de l'histoire et de raconter la guerre.
Oui, bien sûr. Bien sûr, je pense que le film aussi en France a eu de l'impact sur les gens, c'est déjà ça traite d'une période qui est encore un peu taboue par rapport à notre passé, notre mémoire en France, et puis c'est aussi un sujet qui a été assez peu traité, c'est-à-dire comment des petites gens et des gens simples et normaux, enfin des gens normaux, se sont mal comportés durant cette période, mais pas par idéologie ou par pour s'enrichir en volant des toiles de maître, des choses comme ça. Je dirais juste pour essayer de s'élever un petit peu socialement et d'obtenir ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils ne possédaient pas, mais pas forcément des grandes choses. Et ça a parlé aux gens. Et aussi encore plus, c'est-à-dire malheureusement, il y a une résonance très actuelle, c'est-à-dire dans des périodes sombres et terribles comme on peut connaître, quelle est la limite entre le bien et le mal, et comment on doit se comporter face à l'adversité. Donc tout ça a déjà lancé pas mal de débats. Et fait que, je dirais, il y a un intérêt qui dépassait même le cadre du thriller, on va dire. Alors que le film est quand même avant tout ludique, quand même. Il y a ce sous-texte-là qui est assez intéressant dans la réflexion, mais c'est avant tout ludique. Le film est un film à suspense où le spectateur doit être inquiet par rapport au personnage et savoir quel va être leur destin, quoi.
Alors, si on récapitule, si on rappelle un peu l'histoire du film, donc il y a Daniel Auteuil qui joue dans Monsieur Hoffman, qui est bijoutier à Paris, et il y a les Allemands qui on comprend en sous-jacent, c'est la période de la rafle du Veldiv, et donc en fait la famille de Monsieur Hoffman doit partir, s'en va, lui il décide de rester derrière pour fermer boutique, et il fait un deal avec un de ses employés de dire: je te donne la boutique pour l'instant, ou tu m'achètes la boutique avec mon argent, et quand je reviendrai, tu me rachèteras ma boutique avec mon propre argent. Et ça ne se passe pas forcément comme il l'a voulu.
Exactement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a cette idée. Enfin, lui a vécu déjà avec ses parents. Ils ont dû fuir la Pologne au moment des pogroms et ainsi de suite. Donc, il pressent dès 1941 qu'il a beau être juif français comme sa femme, ses enfants, il ne faut pas rester à Paris. Et faut partir en zone libre, car forcément ça va mal se terminer. Et malheureusement, la suite fait qu'il a raison. Donc il envoie sa femme, ses enfants en zone libre, et lui décide de dire à son employé: on fait comme si tu m'avais acheté la boutique, et quand je vais rentrer, tu me la rends et je t'aiderai à t'installer. Sauf que, comme je disais tout à l'heure, il ne fait pas ce deal avec la bonne personne, et que ce point de départ, ce garçon qui, au demeurant, est sympathique, hein, plein de bonne volonté, malheureusement, ça va le faire dévier et ça va engendrer un monstre. C'est-à-dire, on lui ouvre une porte, et malheureusement, ça ne va pas le faire monter, ça va le faire descendre. Et il va le devenir un vrai danger pour Hoffman, c'est-à-dire à vouloir même jusqu'à lui voler sa vie et lui voler son talent, usurper son talent. Et en plus, et là je laisserai le spectateur découvrir, il va avoir une idée complètement folle d'un deal en parallèle de ce deal je te cache et moi j'utilise la boutique, quelque chose de complètement fou, et qui va en plus accentuer sa propre folie. C'est-à-dire que le personnage de François, joué par Gilles Lelouch, c'est l'arroseur arrosé, c'est-à-dire mettre en place un système qu'il n'est pas capable d'assumer.
Alors, vous parlez justement de Gilles Lelouch, Daniel Auteuil, on va parler de Sarah Giraudeau un petit peu plus tard, mais cette confrontation Lelouch-Auteuil, ces deux acteurs qui ont vraiment un énorme pédigré tous les deux dans le cinéma français, comment ça s'est passé cette confrontation à l'écran, parce que c'est pas les meilleurs amis du monde, hein, on va le comprendre dans le film, mais c'est quand même deux bêtes de scène quand même.
Ouais, c'était exactement ça. C'est-à-dire, ce que je voulais, c'est faire un couple de cinéma. C'est-à-dire, moi, de par mon âge avancé maintenant, j'ai souvenir comme ça des films des années 70 où il y avait la rencontre de Belmondo, Delon, Lino Ventura, Delon dans Les Aventuriers, des choses comme ça. Et c'était important pour moi, je parlais tout à l'heure du côté ludique et du côté film de cinéma, d'avoir la confrontation de ce qui est à l'heure actuelle les comédiens les plus forts et les plus connus en France de par leur génération, c'est-à-dire la génération de Daniel. Il y a Daniel Auteuil et Gérard Depardieu en France qui sont vraiment au-delà. Voilà. Et de la génération de Gilles, il y a d'autres comédiens, mais Gilles, à l'heure actuelle, est sans doute le comédien phare de aussi sa génération. Et, voilà, et la rencontre des deux était assez formidable. Et d'ailleurs, j'ai d'abord proposé à Daniel et le lendemain, j'ai proposé à Gilles. Daniel m'a dit oui tout de suite. Et Gilles, quand je lui ai dit « Lis le scénario, tu vas voir, le personnage est formidable » et ça serait face à Daniel Auteuil. Et je savais que j'avais déjà 50% de la réponse. C'est-à-dire, pour Gilles comme pour moi, Daniel Auteuil, c'est un monstre. Et aller jouer face à ce monstre sacré du cinéma, c'était aller déjà dans la mythologie et dans ce dont il a rêvé quand il rêvait d'être comédien. Moi, j'ai rêvé de travailler avec ces grands comédiens et Gilles rêvait de jouer, donner la réplique à ces grands comédiens. Donc, voilà, en plus d'être des brillants artistes et d'être parfaits pour le rôle, il y avait ce truc intéressant. Et d'ailleurs aussi, du côté de Daniel, ça l'intéressait aussi d'aller, pas se confronter, mais jouer avec quelqu'un de la nouvelle génération et qui est comme ça, une espèce de passage de flambeau. Voilà, donc tout ça faisait que, et aussi avec Sarah, on était tous là pour les bonnes raisons, c'est-à-dire envie de faire un bon film de cinéma, et ça a été, alors que c'est sans doute le sujet le plus difficile, c'est même le sujet le plus difficile que j'ai eu à traiter dans tous mes films, c'est sans doute le tournage le plus heureux et le plus sympathique dans le plaisir de travail.
Vous parlez d'un film de cinéma. J'ai vu quelques interviews de vous, d'ailleurs avec Gilles Lellouche, vous avez fait auparavant. Vous parlez que c'est un vrai film de cinéma, à contrario d'un film de plateforme ou d'un film de télévision. Pouvez-vous nous expliquer ce qui fait la différence aujourd'hui? Parce que peut-être on est un peu préformaté maintenant avec ces plateformes qui sont disponibles partout. Et que là, aujourd'hui, vous parlez que c'est un vrai film de cinéma.
Ouais, je dirais le fait que le film soit, c'est pas complètement un huis clos, mais il y a assez peu de décors. Les décors sont pas nombreux, on est beaucoup en intérieur, donc il y a un travail d'image, de son, et aussi de, je dirais, raconter l'histoire dans les yeux des personnages. Et forcément, les yeux des personnages, de manière très basique, quand vous êtes au cinéma, l'œil de Gilles Lellouche, Sarah Giraudeau, Daniel Auteuil, il fait 5 mètres de large. Chez vous, il est gros comme ça. Donc forcément, vous racontez beaucoup plus de choses dans l'œil de 5 mètres que dans l'œil de, 20, de 3 centimètres. Et voilà, et tout est décuplé. Et en plus, c'est pareil pour moi, hein. Quand je suis au cinéma, je suis forcément beaucoup plus attentif. Et je suis, c'est beaucoup plus immersif que quand on regarde un film à la télévision. Et encore plus sur un écran d'ordinateur. Donc, c'est pas la même expérience. Et je dirais que tous mes films comme ça, j'essaye, c'est des sujets universels qui doivent être impliquants pour le spectateur. C'est-à-dire, le spectateur se dit à chaque fois comment moi je réagirais et comment moi je me comporterait. Et donc là, au cinéma, ben, 100 fois plus, on est avec eux dans cette cave. Voilà, malheureusement, quand on voit le film, alors il y a des gens qui le verront à la télé, j'espère que ça fonctionne aussi, mais forcément, on est moins avec eux. Et le plaisir de se faire raconter cette histoire est décuplé quand on est dans une salle de cinéma. Après, voilà, un Marvel ou des choses, voilà, forcément, sur mon écran d'ordinateur, c'est vachement moins intéressant qu'au cinéma. Dune, c'est, faut le voir au cinéma. Et ben, je dirais que même des films plus intimistes, on prendra plus de plaisir au cinéma, même si je vais pas lutter contre, quand on est metteur en scène, si on fait un film de plateforme ou un film de cinéma, on le fait de la meilleure manière possible et on va pas mettre en scène différemment parce que ça va être vu sur un écran petit. Mais quand même, les films, le meilleur endroit pour les voir, c'est au cinéma. Comme un match de foot, c'est vachement mieux de le voir en réel que chez soi, quoi.
Ouais. On sent qu'il y a un vrai cri d'amour là pour le cinéma parce qu'il y a eu le Covid qui est passé par là. C'est peut-être bête à dire, mais pour vous, on sent que dans vos yeux là, je le vois, ça brille. Il y a un vrai cri. Ils font que 3 cm sur mon écran, hein. Mais il y a un vrai cri d'amour pour le cinéma.
Forcément, parce que rien ne remplacera jamais l'expérience de la salle. Après, ça ne veut pas dire que je suis pas contre les plateformes. Moi, ce que je trouve formidable avec les plateformes, c'est que ça démultiplie les supports de diffusion. Et ce qui veut dire que ça va démultiplier les films qui vont se faire en réalité. C'est-à-dire, plus vous avez de moyens de diffusion, bah, plus il faut de films et plus des réalisateurs, dont moi, bah, on peut travailler et raconter des histoires.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
J'ai les armes que j'ai, des couleurs qui prennent l'eau.
Et c'était Noé Prezzo, Les armes que j'ai, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'avril. Et d'ailleurs, en petit aparté, toutes nos sélections musicales sont disponibles sur Spotify si vous cherchez pour SBS French. Et bien, par exemple, il y a la sélection musicale du mois de mars avec un mélange de nos meilleurs podcasts. Tout ça pour vous, pour pouvoir nous écouter à votre guise. Il est 13h45. On va parler d'éducation maintenant, mais d'éducation à l'école maternelle.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Alors aujourd'hui, dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'école et de petite école avec Véronique Danjou. Vous êtes la directrice de French Australian Preschool, direction Canberra aujourd'hui. Donc bonjour Véronique.
Bonjour Christophe.
Alors nous sommes rencontrés, vous et moi, à la soirée de l'ambassadeur sur le thème de la francophonie. Puis on a discuté un petit peu sur l'intérêt du preschool, de l'école maternelle et ce que ça veut dire pour les enfants. Pourquoi, la question de base, hein, pourquoi c'est important d'apprendre le français si tôt dans un cadre d'école comme une école maternelle?
Alors, c'est important d'apprendre le français comme toute autre langue de bonheur, parce qu'en fait, le système d'immersion, et chez nous, c'est une immersion progressive, fait que les enfants, en fait, acquièrent une autre langue sans quasiment faire d'effort. C'est quelque chose de très naturel, c'est quelque chose qui se passe par des chansons, par des histoires, c'est très ludique. Et voilà, c'est quelque chose qui se fait complètement naturellement. Et puis alors, bah, pourquoi le français? Alors, chez nous, on a, curieusement, en fait, en Australie, je pense que vous avez dû remarquer ça, de parce que vous faites aussi, beaucoup, beaucoup d'Australiens qui sont francophiles. Et donc, les Australiens, beaucoup ont passé, par exemple, une partie de leurs études en France. Ils sont allés voyager en France aussi et nous offrons le français ici, et c'est cette langue qu'ils choisissent parce qu'ils adorent cette langue, parce que ils ont adoré leur voyage en France ou leurs études en France. Sur Canberra, il y a d'autres systèmes. Il y a Chinese Australian Preschool, il y a Greek Australian Preschool, il y a quelque chose en italien, mais bon, nous remarquons que le système French Australian, franco-australien, est très, 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 très demandé.
Il semble que, alors, on va juste se concentrer pour cette question-là sur Canberra. Il semble qu'il y a un vrai attrait pour la langue française à Canberra. Bien sûr, il y a Téléopéa, donc il y a des investissements qui sont faits aussi par l'État, donc par le territoire de Canberra, mais aussi par la France. Bien sûr, il y a les ambassades. Est-ce que du fait qu'il y ait toutes ces ambassades et que la France est une des langues, si ce n'est la langue diplomatique, il fait quand même?
Oui, en fait, vous venez de parler de Téléopéa, et je pense que ça, c'est aussi un des attraits principaux pour nos familles. Nos familles savent que si leurs enfants commencent en maternelle dans le système français, ils pourront certainement avoir la possibilité de continuer en primaire, en secondaire et souvent jusqu'au bac français. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de familles demandent. S'il n'y avait pas tout le cursus français offert sur Canberra, peut-être qu'il y aurait moins d'attrait aussi pour ce programme. Puis ce programme aussi a une très 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 bonne réputation sur Canberra. C'est un programme qui existe depuis des années, qui a fait ses preuves, et voilà, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être aussi soutenu par ce programme, par le traité binational qui régit ce programme sur Canberra.
Mmh. Et si on parle du modèle, parce que vous parlez du modèle franco-australien, il semble que ce soit quand même un modèle qui s'impose à peu près dans tous les États. On l'a vu un peu à Melbourne, on l'a vu même d'ailleurs beaucoup à Melbourne. Ce n'est pas des écoles franco-françaises. Ce qui est poussé en avant, c'est vraiment ce modèle franco-australien. Est-ce que ça, pour vous, c'est la clé également?
Ah oui, Tout à fait. Alors, c'est la clé pour beaucoup, beaucoup de raisons. C'est la clé parce que nos enfants sont dans un système, ils sont complètement intégrés dans un système australien aussi, pas seulement un système français. Donc, ils vivent leur scolarité à la française, mais aussi à l'australienne. Et je pense que ça, c'est un énorme enrichissement par rapport à une scolarité franco-française qui peut être obtenue un petit peu partout dans le monde, hein, dans les écoles AEFE. Le fait que l'enfant vive sa scolarité à l'australienne avec tout ce qui, enfin pas chez nous, mais dans les écoles primaires, par exemple, il y a des choses comme les assemblées, il y a des grandes compétitions inter-écoles, il y a tout l'esprit de l'école qui est là et qui est soutenu par les enfants. Je pense que ça, c'est extraordinaire, c'est une chance. Nos enfants ont des professeurs qui sont australienne et française, ils étudient l'histoire et la géographie française et australienne. C'est un double curriculum qui est très riche et je pense que c'est une chance. Alors chez nous, dans notre école, on n'a pas vraiment le système où on a deux enseignantes, mais on a un double curriculum. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est un curriculum... ce qu'on trouve ici, c'est que le curriculum australien est enrichi par le système français et vice-versa. Le curriculum français est enrichi par le curriculum australien. Et ça, c'est unique en Australie. On a vu ça justement au séminaire qui était organisé par l'ambassade la semaine dernière. La plupart des enfants qui étudient dans le système français, que ce soit en Amérique du Sud, en Asie, étudient vraiment dans un système franco-français. Et je crois que notre richesse en Australie, il faut qu'on la cultive, qu'on la garde, parce que c'est voilà, ce double curriculum offre davantage d'opportunités pour les enfants au cours de leur scolarité et par la suite aussi.
Oui, tout à fait. Alors, parlez-nous un petit peu de votre école, parce que elle date pas d'hier. Cette école, elle est là depuis un petit moment. Ça fait quand même, vous avez eu des générations qui sont passées par là.
Oui. Donc notre école aura 50 ans en fait l'année prochaine, hein, en 2023. Elle a été créée ici à Red Hill en 1973. Et alors, nous avons maintenant, en ce moment, nous avons 132 élèves. Nous avons 6 classes de 22 élèves, 3 petites sections, 3 moyennes sections. Donc, on accueille les enfants à l'âge de 3 ans. Les enfants font un cursus d'immersion progressive en français pendant 2 années avec nous. Et ensuite... généralement se dirigent ou les familles décident de diriger leurs enfants vers quelque chose encore à nouveau en français, que ce soit ailleurs dans le monde ou ici à Telopea Park School, dont on a parlé tout à l'heure. Nous avons une double accréditation, donc nous avons un double curriculum, mais aussi une double accréditation. Donc nous sommes reconnus et partenaires de l'AEFE, donc ça c'est l'accréditation française. Et cette accréditation donc nous permet d'enseigner le programme les programmes officiels de l'éducation nationale également donc nous avons une accréditation australienne qui est l'accréditation des crèches qui permet beaucoup de choses, mais qui permet notamment à nos familles de recevoir une subvention qui s'appelle le CCF pour les gens qui sont franco-australiens ou résidents permanents en Australie. Ça leur parlera, je pense.
Le fameux rebate, c'est ce qu'on appelle ça, le rebate.
Voilà, c'est ça. Donc, je pense que nous sommes la seule école sur l'Australie qui a ces deux accréditations. Il y a beaucoup de kindergarten à Melbourne qui ont l'accréditation australienne, mais pas l'accréditation française. Et je pense que l'école Condorcet à Sydney a l'accréditation française, mais pas l'australienne. Alors, c'est un énorme... beaucoup de bureaucratie, on pense que ça en vaut vraiment, vraiment la peine. On a les deux accréditations depuis 1994 et 1995. C'est quelque chose qu'on veut garder parce que l'accréditation australienne, c'est un signe de confiance. Hein. Les parents qui mettent leurs enfants dans notre école, qui inscrivent leurs enfants chez nous, sont tout à fait familiers avec cette accréditation australienne et tout ce qu'elle suppose. L'accréditation française aussi permet une adhérence au programme français et ça, c'est aussi ce que les parents recherchent. Donc ça, c'est quelque chose qui est... qui est monumental, qui est assez lourd à faire fonctionner, mais qu'on veut absolument garder. Alors sinon, nous, notre école, c'est une organisation à but non lucratif qui est gérée par un groupe de parents, un comité de parents. Dans chacune de nos classes, nous avons une enseignante française qui, grâce en fait à cette accréditation française, est détachée de l'éducation nationale française et vient enseigner chez nous pour 2 ans, 4 ans, voire plus. Donc ça, c'est un énorme, énorme plus qu'on a au niveau de notre personnel. Et puis, elle fonctionne, ces enseignantes françaises, avec des assistantes francophones australiennes diplômées en Australie. Alors, c'est très multiculturel, en fait, chez nous. On a beaucoup de gens qui parlent français, mais qui viennent de partout dans le monde, qui viennent du Liban, qui viennent du Maroc, qui viennent de l'île Maurice. Et donc, c'est un melting pot de personnes qui ont l'amour du français, l'amour des enfants, et puis, mais qui viennent de partout.
Eh bien, en cette période de francophonie, de semaine de la francophonie, c'est une belle façon de conclure.
Voilà, voilà. On a participé à la compétition francophonie qui était organisée par l'ambassade et puis l'Alliance française. On a travaillé sur l'île Maurice. On a fait un énorme dodo en papier mâché que tout le monde adore à l'Alliance française.
Le fameux dodo qui n'existe plus.
Voilà, le fameux dodo qui n'existe plus. Voilà, donc... les concours de francophonie, par exemple, c'est très motivant pour notre personnel parce qu'on a des gens d'un petit peu partout, donc on participe tous avec beaucoup d'énergie. Et puis voilà, hier c'était Harmony Day en Australie. Les gens se sont ont revêtu leur costume traditionnel. C'était magnifique.
C'est sûr, c'est un beau moment d'être en Australie. Merci de nous avoir fait partager un petit peu l'ambiance et puisque ce qui se passe aujourd'hui à Canberra dans cette école maternelle. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Au revoir.
Voilà, Véronique Danjou donc pour l'école maternelle de Canberra. Une interview enregistrée il y a quelques semaines, mais toujours d'actualité. Il est 13h57, on va faire un retour sur les grands titres de l'actualité en ce 2 avril. La guerre en Ukraine, bien entendu. Pour la première fois depuis le début de ce conflit, les autorités russes affirment que l'armée ukrainienne a frappé en dehors de ses frontières en détruisant un dépôt de pétrole en Russie. Et l'Australie qui va signer un accord de libre-échange historique aujourd'hui avec l'Inde après des années de négociations, une décennie de négociations. Alors même que l'Inde, eh bien, en ce moment, renforce ses liens avec la Russie. C'est la fin de ce programme en français sur Radio SBS. Je vais vous laisser avec la musique de Clara Luciani, Amour toujours. On a décidé peut-être que notre sélection musicale pour ce mois d'avril sera placée sous le signe de l'amour toujours. Voilà, il est 13h59. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. Vous retrouvez Jean-Noël Lucas demain à 13h. À bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.